France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Sarah Nemtanou et je suis née à Bordeaux en 1981 et je suis violoniste.
Quand vous arrivez à Paris, Sarah Nemtanou, vous êtes jeune, vous avez quoi, 16 ans?
Oui.
De quoi vous vous souvenez de ce changement-là? Parce que c'est pas rien de quitter ses parents, quand en plus...
Oui, je me souviens être allée devant un juge pour m'émanciper, pour pouvoir vivre seule à Paris à l'âge de 16 ans. C'était une période un peu triste et un peu sombre, parce que vraiment... Quand je suis rentrée au CNSM et que donc j'ai passé le concours en avril et ensuite on intègre l'année scolaire et ma mère était très malade à ce moment-là. Et j'ai perdu ma mère en décembre 97 et je suis rentrée donc en septembre 97 alors au CNSM. Et je me souviens donc j'étais en internat et puis dans l'internat du conservatoire, c'est-à-dire que dans les bâtiments du conservatoire du CNSM de Paris, il y a un internat qui accueille des danseurs et des jeunes musiciens et il y a à peu près une quarantaine de places et donc les mineurs sont accueillis dans cet endroit-là et je partageais ma chambre avec une pianiste qui est toujours une amie aujourd'hui qui s'appelle Ksenia Maliarevitch, qui est la femme de François Salles qui joue magnifiquement bien du piano. Et qui m'a soutenue vraiment dans cette période pas très facile. Donc des débuts un peu à tâtons, un peu sombres. C'est vraiment incroyable parce que dans mon esprit, je vois vraiment quelque chose de sombre. Je vois pas de jour, je vois la nuit complète tout le temps. Mais sans être dans une tristesse torturante, hein, vraiment dans une sorte d'angoisse et de besoin d'être libérée. J'étais à la fois heureuse d'être à Paris et de quitter cette ambiance de maladie, de... Voilà, parce qu'elle avait un cancer et à la fois je culpabilisais énormément en tant qu'aînée de partir et j'oscillais vraiment entre ces deux états. Et bon, voilà, un jour on me réveille en pleine nuit pour que vite je rejoigne Bordeaux parce que ça n'allait plus et donc j'ai pu quand même accompagner ma mère lors de ces derniers instants et voilà, j'oublierai jamais, vous voyez, et je me souviens que je voulais absolument lui raconter que j'étais déjà un petit peu amoureuse d'un garçon et voilà, je me souviens de ça, il y avait donc à la fois c'était une sorte de libération et à la fois c'était de la culpabilité, donc c'était bizarre comme sentiment. Et puis après tout ça, c'est vrai que je revenais chaque week-end, hein, pendant ces 3 mois entre septembre et décembre, je venais chaque week-end, je prenais le relais quoi pour mon père et j'avais mon petit frère qui avait 7 ans et ma sœur qui avait 14 ans et qui préparait elle aussi le concours d'entrée parce qu'elle est rentrée un an après moi. Mais j'étais forte, quoi. Il fallait que je sois forte et je sentais qu'au fond de moi, j'avais ces épaules-là.
Je me suis
j'ai pas tout de suite voulu voir à quel point c'était grave quand même tout ce qui était arrivé. Donc je me suis un peu plongée dans les copines, les copains, la fête, ce genre de choses, mais rien d'extrême, évidemment, rien de grave, parce que voilà, j'ai continué de travailler mon violon. Gérard Poulet a été d'un énorme soutien, lui aussi a perdu sa mère quand il avait 16 ans. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des liens, des axes, que tout est... Il faut simplement voir, et voir que rien n'est du hasard. Moi, je trouve, je suis plutôt de ce style-là, de personne. Et donc, j'ai eu beaucoup de soutien, évidemment, des gens extra autour de moi. Et puis, c'est sorti un peu plus tard, à l'âge de 20 ans, quand je suis rentrée à l'Orchestre National de France, où là, comme il y a eu un énorme soulagement artistique, je vivais un rêve de rentrer violon solo. C'était mon rêve absolu. Je voulais faire comme mon père. Je rêvais de cette communauté de l'orchestre, de pas être seule. J'avais cette phobie de la solitude. Et par, je pense, l'abandon de ma mère et tout ça, ça venait de là. Et donc, du coup, là, j'ai eu un petit retour de bâton pas sympa. Des crises d'angoisse, des choses comme ça. Mais bon, vite calmé par, voilà, je suis allée voir des psys, j'ai beaucoup parlé, je trouve ça important quand même, quand on entraîne tous des casseroles, quoi, c'est important de parler. Et je l'ai fait assez tôt, et donc ça m'a réussi, et on a toujours besoin, aujourd'hui, hein, je crois qu'on en a toujours besoin. À la naissance de ma fille aussi, j'ai eu besoin de reparler de certaines choses en tant que mère, parce que je me suis vue, voilà, c'est dur d'être mère sans sa mère. Donc voilà, j'ai eu besoin d'un petit rééquilibrage à un moment, mais voilà, en pleine conscience, vous voyez, donc et grâce à la musique aussi, la première des choses, le premier soutien, c'est la musique.
Élève donc de Gérard Poulet.
De Gérard Poulet, ouais.
Et vous êtes aussi en musique de chambre avec Pierre-Laurent Aymard ?
Ah oui, avec Pierre-Laurent Aymard, Alain Meunier. Mais c'est vrai que j'ai passé mon prix de musique de chambre en trio avec David Saudubré au piano et Gauthier Capuçon au violoncelle. C'était deux années génialissimes. C'était, mais non, mais je vous dis, quand le cœur bat comme ça, qui s'est aéré à l'intérieur et que. Je vivais un rêve de jouer avec des musiciens pareils. Enfin, je sais pas, je me suis tellement bien entendue avec Gauthier. On a eu la chance de pouvoir jouer le double de Brahms avec Emmanuel Krivine à l'Orchestre du Conservatoire en 2000. Évidemment, moi, j'ai un énorme poil dans la main parce que je suis quand même quelqu'un de très flemmarde. J'aime pas trop ça, travailler. J'aimais pas trop ça, jeune. Mais je le faisais quand même, vous voyez. Et, mais il fallait que j'aie une contrainte. Et là, Gauthier, il a été hyper... moteur.
Il avait cet esprit compétitif,
ouais,
aussi.
Énormément, ouais. Non, ouais, très compétitif, c'est vrai, mais lui, vraiment, ça passe par le travail à 99%. Il n'y a pas de hasard. En tout cas, beaucoup moins que chez moi. On ne peut pas faire au bagou, quoi. Ça peut pas, on peut, allez, c'est bon, ça va le faire. Non, pas du tout. Non, faut bosser. Et ça m'a fait un bien. Je vous le dis. Ça m'a marqué ces semaines-là. Et donc, voilà. Donc, on a décroché ce concert et, j'oublierai jamais. Je crois que j'ai jamais aussi bien joué de ma vie qu'à ce concert. J'ai l'enregistrement. Et je m'en souviens, il y avait Gérard Cosset, il y avait Renaud Capuçon, son frère, dans la salle. Ils sont tous venus nous voir à la fin. Ils nous sont tombés dans les bras. On était tellement fiers. Ils ont parlé partout dans le CNSM. Et puis voilà, je vivais quelque part ce que je racontais avec ma mère. Oui, j'étais cette personne dont...
Vous étiez la belle Hélène.
Ouais, c'est ça. Donc je vivais mon rêve.
Comment c'était l'enseignement de Gérard Poulet? Quelle école, pour le coup, le violon français? Qu'est-ce que vous gardez de cet enseignement-là?
Gérard Poulet était un enfant prodige. Il se produisait à travers toute l'Europe et le monde très jeune en jouant les 3 B. Bach, Beethoven, Brahms, il faisait des concerts comme ça entiers en tant que prodige du violon. Il avait donc un père très très sévère, Gaston Poulet, donc. Il m'en parlait comme quelqu'un d'extrêmement dur, violent parfois, et qu'il n'avait pas très très bien vécu. Et il a un jour rencontré ce grand violoniste, Heinrich Schering, qui a été son mentor, et dont il a été mais vraiment imprégné totalement. C'est-à-dire que dans son enseignement, ça allait de la position du violon à la position, évidemment, de l'épaule, du bras droit. Et voilà, et donc dans son enseignement, il y avait cette priorité sur la clarté, en fait, de jeu. Il fallait absolument que ce soit de la dentelle et que ce soit respectueux du violon en soi. C'est-à-dire de ne pas entendre de craquement dans le son, que tout soit pur, que tout soit cristallin. Voilà, un jeu très cristallin, très respectueux du texte. Mais vous voyez, il nous disait souvent qu'il ne fallait pas arrêter le vibrato entre les notes avec le démanché, que parce que ça coupait du coup toute la mélodie. Et j'ai compris ça ensuite en écoutant Heinrich Schering. Et il attachait vraiment une grande importance aussi, mais ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, après, il laissait faire aussi, hein, il imposait pas totalement, mais à la position du violon. Il fallait vraiment qu'on se tienne assez haut, que le violon soit vraiment parallèle au sol, vraiment, d'une manière vraiment très très droite, et que le coude de la main droite soit vraiment au-dessus du poignet. Mais bon, voilà, j'ai jamais vraiment adhéré à ça. Il a jamais insisté parce qu'il voyait que ça sonnait aussi. Il imposait pas non plus. Mais voilà, il était très exigeant sur ça, et travailler la sonate de Debussy avec lui, c'était un vrai régal. Et en cours, quand on avait piano, quand le piano nous accompagnait une fois par semaine, on était un peu vert parce que il commençait à nous jouer un extrait, il s'arrêtait plus. Donc du coup, la moitié du cours avec piano, il se laissait complètement embarquer par la musique et par le plaisir de jouer, ce qu'on comprenait évidemment, mais voilà, il se mettait à 2 centimètres de notre visage et il disait « Ah, voilà, c'est comme ça que tu dois jouer, voilà, c'est comme ça, tu vois. » Mais c'était génial.
Debussy, c'était son père qui lui avait enseigné.
Absolument. Donc j'ai les annotations de Gérard Poulet qui viennent évidemment de son père Gaston. Et voilà, c'est très important, je crois, d'avoir de l'admiration pour son professeur. Et j'avais énormément d'admiration pour le violoniste qui était Gérard Poulet. Et j'en ai encore aujourd'hui parce qu'il continue de jouer magnifiquement du violon. Toujours cette... Oh, c'est vraiment, mais vraiment typiquement le jeu français. Avec ce charme, avec ce timbre, avec ses 1000 couleurs et ses places d'archer.
France Musique, les grands entretiens de Sarah Nemtanou.
La classe de musique de chambre, c'était quelque chose d'important aussi, Sarah Nemtanou, parce qu'on va arriver à la professionnalisation, hein, au moment où vous allez devenir violoniste professionnel, mais peut-être une dernière étape quand même, avec cet apprentissage de la musique de chambre. Vous avez créé plusieurs années après un quatuor. Il y a la forme duo que vous connaissez bien avec votre sœur, mais qu'est-ce qu'on apprend? Et est-ce que cette musique de chambre est d'une certaine façon un prélude à la vie d'orchestre?
Absolument, ouais. C'est vrai que la première fois que j'ai fait de la musique de chambre, j'étais à Bordeaux et c'était en quatuor à cordes avec ma sœur. Et de ne pas être seule en musique, c'est quelque chose qui m'a, bah voilà, qui m'a tout de suite intéressée. J'ai jamais voulu être vraiment soliste, violoniste, soliste, jouer des concertos. Moi, je voulais être connue, mais à la fois quand même faire de l'orchestre et de la musique de chambre. C'est vrai que ça allait être compliqué, quoi. Je me suis dit, ça va peut-être être compliqué pour toi d'être une star alors que tu aimes l'orchestre et la musique de chambre. Mais avant tout, le répertoire. Le répertoire, c'est-à-dire aborder, je me souviens, c'était un quatuor de Mendelssohn, aborder ce genre de répertoire quand on a 12 ans, 13 ans. Mais mon Dieu, quelle découverte, quel choc! Et au CNSM, c'est vrai que Pierre-Laurent Aymard a été un pilier dans le sens où quand même c'est lui qui m'a fait me secouer au niveau du style. Quand on jouait, je me souviens qu'on jouait un trio de Schubert en mi bémol majeur avec David et Gauthier, et j'arrive sur le deuxième thème, vous savez, du fameux mouvement lent très connu, pam 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 param. Le violoncelle qui fait tam, pam, tarara. Bon, bah, Gauthier, il jouait super, c'était génial. Puis au premier cours, je me souviens, et puis après, il y a un deuxième thème, le violon qui arrive un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est très, très dur à interpréter. On arrive comme ça, on est dans le médium et on fait ta, 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 na, na, na. Et c'est tellement dur de pas être ridicule dans ce moment. Et je faisais de mon mieux. Il m'arrête comme ça et il dit alors là. Et puis je me souviens, c'est des petits bruits de bouche comme ça. Il disait Sarah, je crois que parce qu'il fallait, il voulait que je goûte, voilà, que je goûte cette musique. Mais et là il me parle de Vienne. Je fais ah mais oui c'est vrai, Schubert, Vienne, tout ça. Bah, j'avais 18 ans, je comprenais rien moi. Tout ça, on m'avait jamais parlé de tout ça.
Vous n'étiez jamais allé à Vienne?
Pardon. je lisais pas de livres. Enfin, je venais de passer mon bac. J'avais pas envie de lire des livres. Enfin, j'étais pas comme ça. Voilà, je vous l'avoue, je suis plutôt une instinctive. Et ce jour-là, j'ai compris que l'instinct, c'était bien beau, mais qu'il fallait quand même un minimum de connaissances. Donc là, avec énormément de tact et de douceur à la française, Pierre-Laurent Aymard m'a mis sur la voie quand même de... Ah oui, du langage. Suivant l'auteur, le compositeur que l'on joue. Donc là, j'ai eu un énorme flash. J'ai perdu tous les fruits de mon arbre. Et voilà, j'ai mis du temps à refaire pousser, et encore aujourd'hui, je pense. Donc
à trouver le style pour Bartok, pour Brahms, mais pour Bach.
Il y en a un, on peut pas se tromper. Il y a une base quand même. On peut pas.
Et c'est la partition qui vous la donne,
c'est
la base.
La partition. Mais voilà, Pierre-Laurent Aymard et la musique de chambre sont une antichambre du répertoire symphonique et un répertoire aussi immense. Et voilà, un lien indissociable, parce que quand on joue des sonates de Beethoven et qu'on joue des symphonies de Beethoven plus tard, avec des grands chefs, Bernard Haitink, Kurt Mazur, voilà, on ne voit plus les sonates de la même manière.
Thank you. Sarah Nemtanou, en 2002, vous avez 21 ans, toute jeune, le rêve se concrétise, vous entrez, violon solo, à l'Orchestre National de France. Rien que ça. C'était comment, ce concours d'entrée et ces courtes mazours qui est là à l'époque?
Alors, encore un concours de circonstances, je trouve incroyable, un alignement. Je revenais du concours international Antonio Stradivarius, où j'avais eu un troisième prix, ex aequo, avec une Allemande. Il n'y avait pas eu de premier prix. Et le deuxième prix, c'était qui? C'était Nemanja Radulović, qui avait le crâne rasé à l'époque. Et oui, je l'ai connu comme ça. C'était vraiment un chouette souvenir. Et donc, le concours du national avait lieu 2 mois plus tard. Autant vous dire que j'étais bouillante pour ce concours, vraiment. J'étais en forme violonistiquement et j'étais surtout hyper excitée à l'idée de réussir ce concours. Pas de le faire, mais de le réussir. Je voulais absolument être violon solo. Donc mon père, il m'a dit, bah non, fais pas ce concours, t'es trop jeune, t'es folle. Qu'est-ce qui te prend là? Oh, bah, en même temps, il m'a pas du tout empêché. Il dit, bah vas-y, fais-le, mais bien sûr, fais-le, mais bon. Ah, t'as aucune chance. Alors là, c'est pas un truc qu'il faut me dire, parce que je suis encore plus motivée.
Ça redouble.
Alors déjà que c'est fort, ça redouble plus ma mère, plus tout ça, plus allez, tu vas voir et tout ça. Et donc, voilà, le concours a lieu en mai, l'anniversaire de ma mère, c'est le 22 mai. Et le concours a lieu le 20 mai. Le 20 mai 2002. 22 mai, enfin un truc, enfin voilà, je sais pas, moi Je vois de bonnes choses, quoi, se profiler. Et c'était le premier concours de Courte Mazour en tant que directeur artistique. Le premier concours aussi de Didier de Cotigny, qui était le directeur artistique de l'Orchestre National de France, concours important, tout ça. Bon, bref, 14 candidats. Ouah, pas trop, ça se poussait pas trop au portillon. Et je saisis ma chance, tout ça. J'arrive en finale avec orchestre. Et là, Vie d'un héros, extrait de la Vie d'un héros de Strauss, justement. Et Brahms, première symphonie, le beau, très beau solo du mouvement lent. Roussel aussi, troisième symphonie. Et voilà, je descends les marches du studio 104. Et là, je passe au milieu des pupitres des corps, tout ça, qui me faut une petite réflexion. Parce que, je sais pas, mais c'est vraiment chaleureux. Genre, bonjour mademoiselle, tout ça. Moi, je débarquais pour venir jouer mes traits d'orchestre en finale. Donc, je sais pas, j'ai trouvé ça génial comme concept. Et donc voilà, j'arrive, je joue, et puis on était trois en finale, et puis je suis choisie après 2 heures de délibération. C'est Kurt Mazur qui annonce le résultat d'abord en allemand. Oh là là, il voulait d'abord discuter en allemand. Donc voilà, j'attendais, on était comme ça, et puis bon, ça a duré évidemment beaucoup plus que la réalité, mais voilà. Et puis il annonce mon nom, et puis là, je fonds, pas en larmes, mais j'y crois pas, quoi. Je trouve ça génial. Et une belle, très très belle aventure commence. Et sincèrement, aujourd'hui, je ne suis pas moins heureuse que le premier jour.
Un extrait de concert de l'Orchestre National de France avec Kurt Mazur en 2011 pour refermer le troisième épisode des Grands Entretiens avec Sarah Nemtanou. Équipe de réalisation, Lionel Quentin, Philippe Mercher, Pierre Monteil et Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.